الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Nous recommençons aujourd'hui ce premier cours concernant traduction et explication du livre تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. Et donc on commence ce premier cours le 18 de Rajab de l'an 1434 et qui correspond donc au 28 mai 2013. Et donc ce sera une longue série car bi'idhnillahi ta'ala notre intention et ferme volonté bi'idhnillah ou bi'aunillah subhanahu wa ta'ala c'est donc d'étudier ce livre complètement. Et donc l'explication de ce livre, comme cela est nommé dans le titre même, c'est l'explication du livre Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam. Et donc, Umdatul Ahkam, qui comprend, comme va nous le dire l'auteur même dans son introduction, qui comprend les hadiths, mais pas n'importe quel hadith, les hadiths qui concernent l'Ahkam, c'est-à-dire les lois religieuse, et donc ici le fiqh, la jurisprudence qui concerne donc la jurisprudence, al-ahkam. Donc al-ahkam ici ça va être le sujet de ce livre, et c'est pour cela donc que dans le livre ou dans le titre même du livre on retrouve le terme al-ahkam lorsque le shir il l'a nommé ta'sisul ahkam. Ta'sisul ahkam, et bien entendu ta'sis qui vient du verbe assasa, c'est fonder, poser des fondements. Hinamatu assis, c'est lorsque tu poses des fondements. Donc d'où le titre Ta'sisul Ahkam. Et donc ça ne va pas être un livre qui traite de la croyance ou qui traite également de l'akhlaq, du comportement, etc. Donc c'est un livre concentré sur l'ahkam. Et d'où l'auteur va nous rapporter des hadiths concernant l'ahkam, mais qui ont comme condition d'être rapportés par les deux imams, comme on va le voir dans l'introduction, l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Donc l'auteur du livre Umdat al-Ahkam, sur lequel est l'explication du livre Ta'sis al-Ahkam, il est l'imam Hafiz al-Islam Taqiyuddin Abdel Ghani ibn Abdel Wahid ibn Ali ibn Surur Al-Maqdisi, Al-Jamma'ili. Il est donc né à Jamma'il en l'an 541. Et cette contrée, après qu'elle était envahie par As-Salibiyoun, c'est-à-dire les croisés, il a fait les hijra avec sa famille. Et il a été s'installé à Dimashq. Farran bidinihi, pour protéger donc sa religion. Et après qu'il s'est installé donc à Dimashq, il a étudié là-bas une longue période de temps, en commençant par l'apprentissage du livre d'Allah Azzawajal et des autres matières, jusqu'à qu'il a atteint ses 20 années, jusqu'à qu'il a eu 20 ans. Et ensuite, en l'an 160, il a voyagé en Irak, en compagnie du fils de l'oncle, de son oncle maternel, Muwaffaq ad-Din. Et il a appris là-bas beaucoup de sciences également auprès des shuyukh. Il y est resté 4 ans, ensuite il est retourné, ou ensuite il est parti et continue son voyage pour arriver en Égypte. Et ensuite il est retourné dans son pays d'origine, il est retourné ensuite en Égypte, également en Irak, et également fil Jazira, et d'autres pays où il a appris donc beaucoup de sciences. Il est retourné ensuite donc à Dimashq, où là-bas il est devenu donc un grand savant avec qui beaucoup de gens ont appris la science al-ilm, al-shara'i. Et il est mort en l'an 600 de l'Hijra. Et parmi les paroles des savants, Al-Hafidh Ad-Diya, il dit « Kana Sheikhuna Al-Hafidh la yakadu ahadun yas'alu an hadith illa dhakaru lahu wa bayyanahu wa dhakara sihhata aw saqmah wa la yus'alu an rajulin min rijal riwayat illa qala wa fulan ibn fulan wa yadhkur nasaba. » Donc il nous rappelle donc un de ses élèves qui disait que à chaque fois qu'on demandait un hadith à ce grand shir, à ce grand savant de l'islam, Abd al-Ghani, il répondait toujours en rappelant donc quel était ce hadith et également en rappelant s'il était authentique ou non. Et de même pour ce qui était des hommes parmi les rapporteurs de la chaîne de transmission des hadiths, ce qui prouvait donc l'océan de science qu'il possédait, et spécialement dans cette science-là, la science du hadith. Et également il dit Al-Hafidh ibn Rajab, Al-Hafidh Abd al-Ghani, Amir al-Mu'minin fil Hadith. Walaw min al-Mu'allafati hawali 40 mu'allafan. Il dit donc Al-Hafidh ibn Rajab que Abd al-Ghani, il est Amir al-Mu'minin dans le Hadith, de par donc sa grande science, et qu'il a des œuvres. Et parmi ses ouvrages, il y en a plus de 40, c'est-à-dire 40. Et parmi ceux-là, ce qu'on étudie donc, Inch'Allah, à travers l'explication de Cheikh Ahmed al-Najmi. Ça donc, c'est un petit aperçu de la biographie très concise de ce grand savant, rahimahullah ta'ala. Pour ce qui est de l'auteur de l'explication, l'auteur donc de Ta'sis al-Ahkam, alors il est le Cheikh Ahmed ibn Yahya ibn Muhammad ibn Bashir al-Najmi, rahimahullah ta'ala. Il est né en 1346, ce qui correspond en 1928. Et il est mort en 1429, ce qui correspond en l'an 2008. Donc il y a plus de 4 ans maintenant. Il est né, rahimahullah, dans le sud de l'Arabie Saoudite, dans une contrée qui s'appelle Jazan. Et lorsqu'on dit cette contrée-là, on se rappelle donc lorsqu'on avait fait le premier cours concernant l'explication du livre A'lam Sunna, les repères de la Sunna de Cheikh Hafidh al-Hakami, rahimahullah ta'ala, car en réalité il est de la même contrée que Cheikh Hafidh al-Hakami, et même il a été un de ses chouyours. Et parmi ses chouyours donc, Abdullah al-Qarawi, qui lui a donné une ijaza sur Al-Ummahat Sitta, c'est-à-dire donc les 6 livres du hadith. Et donc il a eu comme chouyou Hafidh al-Hakami, également Muhammad ibn Ibrahim Ali Sheikh, et également Abdelaziz ibn Baz. Et parmi ses élèves qui sont connus, Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, Sheikh Muhammad Hadi al-Madkhali, Sheikh Ali ibn Nasir al-Faqih. Et durant donc sa vie scientifique, il a appris donc beaucoup de sciences, beaucoup de livres, et dans différentes matières. Et il a eu une grande partie de sa vie où il a étudié et enseigné à la madrasa salafia qui se trouve à Samita. Donc toujours dans la même ville, la même contrée, comme on avait vu de Cheikh Hafidh al-Hakami. Rahmatullah ala al-jami'a. Donc ça, c'est également un aperçu de la biographie très concise de Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, rahimahullah ta'ala. Pour ce qui est du livre et de son explication, le Shir donc, comme il nous le rappelle dans son introduction, il nous dit que son explication donc des hadiths qui sont compris dans Umdat al-Ahkam passe par 4 étapes. La première étape, c'est al-Mawdu', c'est-à-dire donc le Shir, il va nous rappeler quel est le sujet du hadith, quel est donc son sujet. Ensuite, al-mufradat, donc les termes techniques qui sont compris dans les hadiths, le vocabulaire dont il est nécessaire de donner une explication. La troisième étape, al-ma'na al-ijmali, c'est-à-dire le sens global du hadith. Et ensuite, la quatrième et dernière étape, Firq al-Hadith, c'est-à-dire la jurisprudence tirée de ce hadith. Voilà donc les 4 étapes pour ce qui est de l'explication de Umdat al-Ahkam par le Cheikh Ahmed al-Najmi. Ensuite, il va nous dire également, parmi les points qui sont importants à savoir, pour connaître quelle est la méthode utilisée ici, il nous dit, rahimahullah, وَقَدْ حَوَلْتُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الشَّرْحْ سَهْلَ الْعِبَارَةِ مَعَ مُعَالَجَةِ بَعْضِ الْأُمُورِ الْوَاقِعَةِ الَّتِي تَتَنَافَى مَعَ الشَّرْعِ عِنْدَ الْمُنَاسَبَاتِ تَنْبِيهًا عَلَيْهَا وَإِرْشَادًا إِلَى الصَّوَابِ. Donc, ce sharh, il va être facile, avec des termes et des expressions utilisées qui sont à la portée de tous. Et en même temps, il va donner certains éclaircissements sur des pratiques qui sont contraires à la législation, qui sont contraires donc à la législation authentique de l'islam, afin de montrer aux gens les choses qui sont authentiques de celles qui ne le sont pas. Kama hawalt islah ba'd al-akhta' allati hasalat min ibn daqiq al-'id رحمه الله في المعتقد والرد عليها بما فيه مقنع لطالب العلم أو الحق وتوخيت بكل استطاعة أن أرجح ما تسنى لي فيه الترجيح على أن يكون الترجيح مؤسسا على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحيز إلى مذهب خاص ممتثلا في ذلك قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. Donc le shir nous rappelle également qu'il va donner certaines rectifications concernant certaines erreurs qui sont advenues de Ibn Daqiq al-Aïd, car on sait que Ibn Daqiq al-Aïd, il est un des savants qui a donné également l'explication de Umdat al-Ahkam, et son livre s'appelle Ihkam al-Ahkam bi sharhi Umdat al-Ahkam. Ihkam al-Ahkam bi sharhi Umdat al-Ahkam. Et donc Ibn Daqiq al-Aïd, qui est né en Égypte en l'an 625, ce qui correspond à l'an 1228, et qui est mort en l'an 702, 1302, et qui était un des savants qui a fait l'explication de également Umdat al-Ahkam, sachant qu'il y a eu beaucoup d'explications. Donc c'est pour cela qu'il va donner certaines clarifications de Shir à propos de certaines erreurs qui sont advenues de ce savant fil mu'taqad, concernant la croyance. Et il nous rappelle également qu'il a eu pour but, le Shir, avec toute la capacité qui lui a été donnée, d'exposer au lecteur ce qui est pour lui la parole la plus forte, prépondérante, l'avis prépondérant dans les questions de jurisprudence, sans qu'il y ait une partialité ou un parti pris pour un madhab parmi les madhahib de Ahl al-Sunnah qui sont connus, et en obéissant à la parole d'Allah Azzawajal, comme il nous l'a cité dans ce verset, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum, qui est le verset fi sourate An-Nisa, verset 65. Pour ce qui est du premier volume, comme nous le rappelle le Shir, c'est que lorsqu'il a écrit ce livre, la première partie du livre, le Juz al-Awwal, il l'a donné pour révision à Shir Muhammad Nasruddin al-Albani, rahimahullah, et ceci en l'an 1383 de l'Hégire, lorsqu'il était professeur dans la Kuliyat al-Sharia, dans la Jami'at al-Islamia à Médine. Et donc, Cheikh al-Albani, rahmatullah alayh, il a donné ses observations écrites sur le livre, et donc, elles sont présentes dans Hadi Nusra, dans les notes de bas de page. Mais ça concerne uniquement la première partie du livre. Donc ça, c'est également une des mises, un des mérites du livre en plus. Taïb, voilà pour ce qui est de l'introduction, qui suffit, inshallah. Donc on va commencer la lecture du livre Muqaddimatu Kitab al-Umda, par la présentation que nous a fait le savant, قال الشيخ الحافظ تقي الدين عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور الجمائلي المقتسي رحمه الله تعالى الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار أما بعد فإن بعض الإخوان سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري فأجبت إلى سؤاله رجاء المنفعة في أو به وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه وأن يجعله خالصا لوجه الكريم مجيبا للفوز لديه في جنة نعيم فإنه حسبنا ونعم الوكيل. Donc, il nous rappelle bien ici dans cette introduction que lorsqu'on lui a demandé, en résumé, d'écrire les hadiths concernant donc l'ahkam, comme on l'a dit, mais qui avait pour particularité d'être rapporté par les deux imams, l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Donc, chaque hadith qu'on va lire, on sait qu'il est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. La première faïda, c'est que pour la personne qui va apprendre par cœur Umdat al-Ahkam, il n'a pas besoin d'apprendre qui a rappelé ou qui a cité ce hadith, car automatiquement ça sera de l'imam al-Bukhari et de l'imam muslim. Donc ça c'est une facilité pour ce qui est de savoir qui a cité le hadith dans les livres de la sunna. La deuxième chose, c'est que bien entendu, ça va être considéré comme les hadiths les plus authentiques. Donc il n'y a même pas besoin de parler de leur authenticité lorsqu'on va citer chaque fois le hadith qui se trouve dans ce livre Umdat al-Ahkam. Ça c'est la deuxième également faïda. Ensuite, le premier hadith qui est cité, il est le suivant. An Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. Donc ce premier hadith, le hadith bien entendu on le cite en arabe et on s'en tient à l'arabe. Et on donne les termes en arabe en donnant leur explication ou leur traduction en français bien entendu. Pour que la relation qu'on a avec le livre, elle soit forte de par la langue arabe. Il nous dit le shir, pour ce qui est du sujet du hadith, mawdou' al-hadith, c'est an-niyat, donc les intentions. Et donc la relation qu'il y a de ses intentions avec l'acte et avec la rétribution, avec la récompense. Ça c'est le sujet même du hadith. Pour ce qui est des termes qui sont employés, deux termes que va nous citer le shir, c'est le premier, an-niya. An-niya, qu'on traduit donc par l'intention, qui est al-qasdu bil-qalbi ila shay. Al-qasdu, donc du verbe qasada, al-qasdu. Bil-qalbi ila shay. Donc al-qasd, c'est avoir donc la détermination, la volonté, et donc également l'intention, de par notre cœur, donc bil-qalb. Ila shay'in, vers une chose. Donc de par notre intention, de par notre volonté, notre cœur il se dirige vers une chose. Et donc, il va s'en suivre le reste des membres du corps qui vont suivre. Et donc ça commence où ? Ça commence par le cœur, enam. Et c'est bien pour cela que la partie la plus importante à purifier dans le corps, c'est bel et bien le cœur. Comme nous l'a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que si ce cœur, il est salih, alors tous les autres membres vont suivre. Et s'il est fasid, alors tous les autres membres vont suivre. Certains savants donnent une explication pour ce qui est de la définition de al-niya fi shara, et ils nous disent al-azmu ala fi'l al-ibadat taqarruban ila Allah. Donc al-azm, également des termes qu'on a déjà vus, al-azm, al-qasd, al-niya, on les a vus dans la croyance, et on les a vus également avec le livre Les repères de la Sunna du Cheikh Hafiz al-Hakami. Et on va voir pourquoi. Car en réalité, si le sujet ici, bien entendu, c'est fil ahkam, le terme niya, il va être également, comme on va le voir, employé dans d'autres domaines. Dans les domaines, parmi ces domaines-là, les domaines donc de la croyance, de l'ikhlas, etc. Donc c'est pour ça que ces termes, on les a déjà vus dans la croyance. Ils reviennent aujourd'hui dans le fiqh. Donc al-azm, on a déjà vu également, à la fi'l al-ibadat, donc c'est la détermination pour faire une adoration, taqarruban ila Allah, afin de se rapprocher d'Allah azawajal, afin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-azmu ala fi'l al-ibadat, taqarruban ila Allah. Le deuxième terme expliqué par le shir, c'est al-hijra, al-hijratu, qui vient du verbe hajara. Iya naqlatu min bilad al-shirk ila bilad al-islam, donc c'est émigrer d'un pays du polythéisme vers un pays de l'islam, pays polythéisme ou un pays bien entendu où il y a le kufr, un pays de mécréants, pour aller vers un pays de l'islam. Et cette hijra, elle est bien entendu valable jusqu'au jour dernier. Et elle est obligatoire et elle est rétribuée par Allah subhanahu wa ta'ala d'une grande récompense. Et il nous dit le shir donc que ça vient du verbe hajara, hajara shay, idha tarakaw. Donc hajara ça veut dire délaisser une chose, ça veut dire délaisser une chose, tarakaw. Donc ici on voit qu'on délaisse le pays où l'on est pour aller vers un autre pays. Donc hajara min ila. Le troisième terme ensuite, c'est ad-dunya. Le terme qui est employé également dans le hadith, c'est ad-dunya. Et il nous dit tutlaq ala kulli ma dakhala min bab ash-shahwa wal hawa wal zina wal tafakhur. Donc ici c'est plus dans un aspect péjoratif. Car il nous dit on l'utilise de manière absolue dans tout ce qui va être en relation donc ce qui rentre dans le chapitre de ash-shahwa wal hawa. Donc les désirs, les passions, zina, tout ce qui est de l'apparence, donc du décor, de l'apparence de cette vie, tafakhur, également tafakhur, donc le fait de se faire concurrence dans cette dunya et d'être fier par rapport à cette dunya, etc. Donc on voit que c'est un terme ici qui est employé de manière péjorative dans ce hadith, contrairement à l'akhira, qui lui est le terme qui montre l'élévation de l'âme, l'élévation de beaucoup de choses. Et la dunya, bien au contraire, le rabaissement. Et pour ce qui est de al-ma'na al-ijmali, pour ce qui est du sens bal-dur, il nous dit le shir, rahimullah, min adli al-adl al-hakim an wakala al-jaza ila al-niyat wa ja'alahu tabi'an laha wa murtabatan biha wa murtabatan biha fa man nawa bi'amali lillah athabahu Allah ridah وأمنه من العذاب وأدخله الجنة ومن وبعمل أمرا دنيويا كان ثوابه ذلك الشيء الذي نواه كائنا من كان كائنا ما كان وفوق ذلك الوعيد. Donc ici, pour ce qui est de al-ma'na al-ijmali, c'est que tout simplement, comme nous rappelle le shir, de par la justice du juge al-hakim subhanahu wa ta'ala et de ce du sage du juge, c'est que toute jaza, toute récompense, toute rétribution, elle est directement liée à un niyat. Et donc elle le suit. Cette rétribution, elle va suivre la niya. Elle va être rattachée à elle. Donc celui qui va faire une chose avec l'intention que ce soit pour Allah, alors Allah va lui donner la récompense. Et quelle récompense de sa satisfaction. Et il va l'écarter du châtiment et le faire entrer dans le Jannah. Et celui qui a eu l'intention de par son acte amran dunyawiyan, uniquement une chose bas de cette vie d'ici-bas, alors de même sera sa rétribution en conséquence de cette chose-là, telle qu'elle soit ou quelle qu'elle soit. Et bien entendu, il y a au-dessus de cela al-wa'id, c'est-à-dire donc la menace. Donc, pour revenir au hadith, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Innamal a'malu bin niyat wa innama li kulli mri'in ma nawa ». Le shaykh va nous dire, il va nous dire que premièrement, pour ce qui concerne fiqh al-hadith, la jurisprudence qu'on va tirer du hadith, il y a ici un terme qui est supprimé, qui est présent, mais qui est supprimé. Et ce terme-là, c'est le suivant, « Innama sihatul a'mal bin niyat ». Innama sihatul a'mal bin niyat. Ce qui veut dire ici, c'est qu'il y a un terme, lorsque le prophète sallam il a dit innamal a'mal bin niyat, il y a un terme qui est ici enlevé par un procédé linguistique. Bien entendu, ici, c'est ce que voit le shir comme tarjih. Et donc, ce terme qui est employé, c'est as-siha. Qui est enlevé, c'est as-siha. C'est pour ça qu'il dit فَحُذِفَ المضاف وَأُقِيمَ المضاف إِلَيْهِ مَقَامَ. Donc, المضاف, c'est siha. C'est ce qui est annexé à l'a'mal. Donc, ce qui est annexé, on enlève, siha. Et ce qui était مضاف إِلَيْهِ, donc ici, ce qui est trait à l'annexion, et ici donc à l'a'mal, on va le laisser, et il va prendre donc sa place. Et ça, c'est une chose qui est importante, parce que ça va nous faire comprendre donc le sens même du hadith. وهذا عندما جعل النية شرطا في صحة الأعمال وهو الحق. C'est-à-dire qu'on va comprendre que l'authenticité des actes passe par les intentions. L'authenticité des actes passe par l'intention. Taïb, donc l'authenticité ici, c'est ce qui est annexé à l'A'mal et c'est ce qui est ici enlevé. Et l'A'mal, donc les actes, il prend donc la place. Donc ce qui est trait à l'annexion ici, ça prend la place de siha al-a'mal. Ma'na sihatul a'mal. L'authenticité donc des actes. Et il nous dit, et c'est pour ceux qui ont placé la niya comme une condition dans la validité des actes. Wa huwa al-haq. Et c'est la vérité. Donc ceux qui ont placé la niya, d'après ce hadith, comme étant une condition dans l'authenticité des actes, alors ils ont, yani qaddaru, ils ont donc expliqué ce hadith par ce terme-là, inna sihatal a'mal bin niyat. Sachant que d'autres savants ils vont dire qu'il va avoir un sens un peu plus général ici, et que chaque niya, et même si on le retrouve dans l'explication du shir au début, c'est-à-dire que chaque niya, elle est raccrochée donc à quoi ? À ça, à son... où chaque a'mal, chaque acte, il est raccroché donc à son, à sa niya. Donc si la niya est bonne, l'a'mal il est bon. Si la niya n'est pas bonne, la niya n'est pas bonne. Mais ce qui est de plus général donc, c'est que on va tirer ici que chaque a'mal, chaque acte, il est obligatoirement relié à une niya, à une intention. Chaque acte, il est relié à une intention. Et ça, c'est l'aspect, on va dire, beaucoup plus général. Et le shir nous a rappelé, bien entendu, l'aspect ici qui est important de savoir dans le fiqh de ce hadith et qui est primordial à savoir. Et qui est donc de savoir que la niya sera en conséquence, ou l'amal sera en conséquence de niya, de par son authenticité ou sa non-validité. Et ça, c'est l'essentiel à connaître. Également, ce qui est en apparence dans ce hadith, et qu'on tire comme profit, c'est que celui qui désire une chose, il va l'obtenir. Car dans le hadith, il est bien cité فَمَنْ كَانَ تِجَارَتُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ فَإِجَارَتُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ وَمَنْ كَانَ تِجَارَتُ إِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِمْرَاتٍ يَنْكِعُهَا فَإِجَارَتُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Donc celui dont la hijra, elle est pour Allah et son prophète, alors elle sera comptée comme telle. Mais celui dont la hijra, elle est pour cette dunya, ou alors une femme qu'il veut épouser, alors son hijra sera compté comme tel. Il a mahajra, il est. Sera compté comme tel, en regardant donc sa niya. C'était pour quoi? Pas pour Allah, mais pour une chose de cette vie d'ici-bas, de cette dunya. Donc, on comprend que celui qui veut obtenir quelque chose, il l'obtient. Mais, ce sens général qu'a le hadith, il est mukhassas. Il est makhsous par un verset du Coran qui est le suivant, fi surat al-Isra, qui est le verset 18. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. Et donc le sens, celui qui veut. من يريد, من كان يريد العاجلة. العاجلة donc cette chose qui est éphémère, cette chose, cette vie d'ici-bas. عجلنا له فيها. Donc on va, il la veut de manière précipitée, cette chose éphémère dans cette vie d'ici-bas, alors on va lui la donner. ما نشاء, suivant donc ce que l'on veut, ce que Allah Azzawajal veut, l'iman nourit, et pour qui nous voulons. Donc ici on voit qu'il y a une restriction pour ce qui est des choses de cette vie d'ici-bas. Et al-waqi' yashhad bidhalik, c'est-à-dire la vie de tous les jours nous prouve cela. Ce n'est pas tout ce qu'on veut dans cette vie d'ici-bas qu'on va l'obtenir. C'est suivant bien entendu la volonté d'Allah et suivant ce qu'il va nous donner. Donc c'est pour ça que le verset, il vient restreindre le sens général du hadith. Par contre, ça c'est pour la dunya, mais pour ce qui est de l'akhira, et qui est donc la première partie du hadith, كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. Donc ici on voit que il y a une jumlatun shartiya, c'est-à-dire une phrase au conditionnel. يعني فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. Ça c'est la condition. يعني النية ونية وقصدا. Donc sa niya et son qasd, c'est cela. Fajawab shart, donc la réponse à cette condition, yani thawaban wa ajran, donc par rétribution, par récompense, thawaban wa ajran, c'est celle-là, fahijratu ilallahi wa rasuli. C'est-à-dire, elle sera récompensée de par son hijra, elle sera comptée comme celle-là pour Allah et pour son prophète. C'est pour ça que, pour ce qui est de la deuxième partie donc, du hadith, son sens général, il reste général, il n'est pas restreint. Et c'est ce qui concerne donc lorsque la niya elle est pour Allah et son prophète. Ça veut dire qu'automatiquement il recevra sa récompense d'Allah et de son prophète. Sa rétribution, elle est assurée si sa niya elle est réellement pour Allah et son prophète. Et ça, on le trouve donc dans la deuxième partie du hadith lorsqu'il a cité le prophète sallam, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Et donc, la preuve de cela, c'est ce qu'on retrouve dans le Coran. Et ici, il n'y a aucun verset qui va venir restreindre le verset, ou il n'y a aucun verset qui va venir restreindre le hadith en ce qui concerne donc la deuxième partie. Et parmi les versets qui viennent même appuyer le sens général du hadith, ici, c'est le verset suivant. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ كَمَا فِي سُورَةِ أَلِ عِمْرَانِ, qui est le verset 195. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal, leur Seigneur, il leur a répondu. Et qu'il ne délaissera, il ne perdra aucun acte de ceux qui l'ont fait. C'est-à-dire donc, Allah Azzawajal, il promet que chaque acte qui va être fait pour lui, avec ikhlas, alors jamais il ne laissera perdre cet acte. Il sera bel et bien récompensé. De même, comme fit surat al-Tawbah, qui est le verset 12, il dit, subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yudhi'u ajr al-muhsinin. Allah Azzawajal, donc, ne fait pas perdre la rétribution de ceux qui sont considérés comme mursinin, c'est-à-dire les bienfaiseurs ou les bienfaisants. Donc la première partie, elle est restreinte par le verset, c'est-à-dire suivant ce qu'Allah Azzawajal veut et à qui il veut. La deuxième partie, elle n'est pas restreinte, elle reste dans son aspect général, et ça c'est appuyé par les versets du Coran qu'on a cités les deux. Ensuite, comme le shir le dit, إنما لكل امرئ ما نوى. Dans le hadith, إنما وإنما لكل امرئ ما نوى, il nous dit là où مفهومان. Il y a deux sens de cette phrase. Le premier sens, c'est الإخبار بعدم حصول غير المنوي. C'est-à-dire que ce qui n'aura pas été intentionné, alors on ne va pas l'obtenir. Et ensuite, الإخبار بحصل الثواب فيما نوى كائنا ما كان. C'est-à-dire que uniquement al-thawab, elle va être restreinte dans ce qui a été ou pour ce qui a été intentionné. quelle que soit la chose. Quelle que soit la chose. Donc on voit ici l'aspect général et absolu. Ensuite, il nous dit le shir, comme autre point, An-Niyya, elle a deux sens. Le premier sens, c'est Tamiz al-ibadat min al-adat, ou an-il-adat. Ou Tamiz al-ibadat ba'dwa an-ba'd. وكلام الفقهاء يقع على هذا النوع. La première donc partie, c'est de différencier les adorations des habitudes. Et donc on a besoin ici de parler de ce qui est de l'intention, de niya. Et on revient à la niya de la personne pour savoir ce qu'elle a fait, c'est en tant que acte légiféré ou alors un acte qui rentre dans les habitudes et qui n'est pas pris en compte par la religion, en tant qu'authenticité ou non-validité, etc. Donc ici, il y a bien une différence entre l'ibadat, les adorations, et l'adat, les habitudes. Un titre d'exemple, l'rousl. Le fait de se laver uniquement lorsqu'il fait très chaud pour se refroidir, hein, pour se rafraîchir, ou alors se laver parce qu'on est très sale, et ensuite se laver pour se débarrasser de al-janaba, de cet état d'impureté. Ou alors faire le rousl avant d'aller à la prière du vendredi, etc. Donc on voit ici que de par cette niya, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir faire la différence entre l'habitude et l'adoration. Et bien entendu, les jurisconsultes, leurs paroles tournent autour de cela, de cette première catégorie. La deuxième catégorie, c'est tamyiz al-ma. Et de même, il nous dit le shir, différencier les différentes adorations entre elles, comme par exemple différencier ce qui est obligatoire de ce qui va être surérogatoire, par exemple lorsqu'on prie, ça passe également par la niya, etc. Et ensuite, le deuxième sens, c'est tamyiz al-maqsoud bil-amal, hal huwa lillah, hal huwa Allah ou ghayru. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut par l'acte? Est-ce que celui qu'on veut par l'acte, c'est Allah ou un autre qu'Allah Azzawajal? Donc ici, on vient dans la question de l'ikhlas. L'ikhlas. Et ça, c'est ce qui rentre dans, comme on a dit au début du cours, dans l'aqida, dans la croyance. C'est-à-dire ce qu'on va traiter dans la croyance. Lorsqu'on parle donc de l'ikhlas et son contraire, le shirk, le riya, etc. Et comme il dit le shirk, وَكَلَامُ الْعَارِفِينَ بِاللَّهِ يَقَعُوا عَلَى هَذَا النَّوْعِ. C'est-à-dire l'arifin, ceux qui parlent, les savants qui parlent donc de cette catégorie-là, que l'on trouve donc dans la croyance, que l'on retrouve également lorsqu'on parle des actes méritoires et qu'on motive les gens aux actes méritoires, et lorsqu'on parle donc à partir de là des niyat, des intentions, etc. Donc ce sont ces savants-là qui traitent de ce sujet pour ce qui est donc niyat. Également un point qui est important, c'est que niya mahallu al-qalb, comme on l'a vu, niya c'est uniquement dans le cœur. Et donc il n'est pas permis à talaffuz biha de citer avec sa langue, avec sa parole, la niya. Elle doit rester dans le cœur. Et il nous est donc interdit, c'est même une innovation, de la dire avec la langue. Tayyib. Sauf ce qui est venu dans le shara. Et ce qui est venu comme istithna, comme exception, c'est bien entendu durant al-hajj, al-talbiya. Lorsque la personne... Yu'abbir, c'est-à-dire qu'il exprime ce qu'il a dans son cœur au moment où il commence la talbiya et au moment donc où il part pour faire son hajj. Donc au moment de talbiya, comme on l'a vu donc dans les cours de jurisprudence concernant le hajj, on a vu donc c'était l'endroit où la niya elle est exprimée par la langue, c'est-à-dire on disait à voix haute. Dans tout le reste, c'est une innovation. Et nous dit le shir que malheureusement on trouve cela. C'est-à-dire talaffuz bin niya, on le trouve dans certains ouvrages de jurisconsultes. Comme il nous dit, comme cela est arrivé chez Shafi'iyya, Shafi'it. Ensuite, le cheikh va nous parler de pourquoi ici le hadith il a été cité. Fi bab al-tahara. Et il nous dit donc, il a été cité car niya shartun fi sihatiha. C'est-à-dire que l'intention est une condition pour que al-tahara, donc la purification, qui passe donc soit par l'eau d'eau ou soit par le rousl, pour que cette eau d'eau ou ce rousl, il soit valide, il faut automatiquement le niya. Car toute adoration passe par, et toute validité d'adoration passe par la niya. Kama yashart fi sihati kulli ibada. Et ça, wa madhhab al-jumhur. Et si nous dit madhhab al-jumhur, c'est-à-dire c'est le madhhab de la plupart des savants, ou de la grande partie des savants, il faut savoir qu'il y a d'autres savants qui ont dit non. Ce n'est pas ici une condition. Comme c'est la parole et l'avis de Abu Hanifa wa Thawri. Donc ils n'ont pas posé comme condition un niya pour ce qui était de l'obo, pour ce qui était donc des ablutions. Pourquoi cela? Parce qu'ils ont vu que ça faisait partie donc des wasa'il, ça faisait partie donc des moyens qui permettent de faire la prière. Et ils ont vu donc que cette obo en elle-même, elle n'avait pas besoin de niya. Et donc le shir, il nous rappelle que la parole la plus forte et prépondérante, l'avis prépondérant, c'est bien les savants qui ont dit qu'il était obligatoire que cela, qu'il nous fallait donc la niya pour que notre wudu soit authentique. Et parce que le wudu, ça ne fait pas partie des wasila, c'est-à-dire des moyens qui sont purs. Non, c'est bel et bien donc une ibada, c'est bel et bien donc une adoration. En même temps, elle est une adoration, ibada, et en même temps, elle est une wasila. Taïb. Et ensuite, un point qu'on va citer, qui est important ici en plus, c'est qu'il faut qu'on parle de niya pour faire l'odo, et même on va dire la plupart des adorations, qu'on est bien dans le domaine ici de l'ibada, c'est-à-dire la parole ou la niya qui touche donc les adorations et qui permet de différencier les adorations des adat, donc des habitudes. C'est que un niya, il ne faut pas un roulou, c'est-à-dire une exagération fi istihbar un niya, c'est-à-dire donc d'apporter ou alors de concentrer notre niya, notre intention. C'est-à-dire donc mujarrad qasd al-amal yakfi. Le fait que toi tu vas pour faire ton odo, ton intention c'est d'aller faire l'odo, donc tu sais que tu vas aller faire l'odo, ça suffit pour que ta niya elle soit donc ici complétée. Et donc il n'y a pas besoin de se concentrer et se dire bon maintenant il faut que je fasse mon dodo, il faut que je fasse mon intention pour faire le dodo, etc. Donc une exagération. Fistihbar an-niya. C'est ça qui est demandé. Taïb, sanaktafi biyada. Donc c'était la première partie ou le premier cours de ce explication du livre. Et donc le premier hadith. Et on continuera, Inch'Allah, sur la suite des autres hadiths, toujours donc fi kitab al-tahara, donc dans le chapitre de la pureté, al-tahara. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.